Ouraï Vérabotaï, voilà donc la paracha Vayera, quatrième de ce Sefer Bereshit, que nous allons explorer à travers plusieurs thèmes. Et à chaque fois, nous allons voir que derrière le sens simple, nous allons trouver toute une série d'autres sens, tous bien entendu concordants. Parmi les thèmes de cette paracha, nous avons indirectement, certes, la circoncision d'Abraham, puisque à la fin de la paracha précédente, Abraham avait reçu l'ordre divin de faire une mila, une brit mila, à tous les mâles de sa maison, à lui également, bien entendu. Eh bien, il est écrit, Vayera Elav, Hachem, Beloné Mamré, Vehu, Yosher, Petah, Aoel, Kehom, Ayom. L'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Voilà donc le démarrage de cette paracha. Le sens simple est très facile à comprendre. Nous avons Abraham, convalescent, qui est assis à l'entrée de sa tente. Et Dieu lui apparaît pour lui rendre visite, Dieu et les trois anges. Ceci étant, on voit la mitzvah de visite aux malades, puisqu'il était malade et il a reçu donc cette visite. Niveau, on quitte le sens simple pour aborder le niveau remez du pardès. Donc, on a vu qu'il y a quatre niveaux d'interprétation principaux, le sens simple, l'allusion, le drache qui est l'explication mélitique, et bien entendu l'explication mystique, secrète, qui est du domaine de la Kabbale. Eh bien, le remez, la recherche d'allusion, est la suivante. Il était assis à l'entrée de sa tente. Assis à l'entrée, c'est-à-dire qu'il était ni devant ni dehors, il était entre deux, quelque part, et on est toujours, chacun de nous est à chaque instant entre deux positions. Puisque on nous dit qu'à chaque fois que l'on arrive à un certain niveau spirituel, on n'est en fait qu'à la moitié de notre potentiel. C'est-à-dire que quand bien même quelqu'un serait arrivé à 100% de son potentiel spirituel, eh bien, encore 50% s'ouvre devant lui, il a encore moyen de progresser du double. Et donc c'est ce symbole un peu de l'ouverture, puisque cette ouverture dit qu'il n'est pas arrivé. En plus, cela fait quand même référence à une ouverture à autrui, à l'accueil des invités, et également à la présence divine. Quant à la chaleur du jour, que l'on a vu dans le verset, cela symbolise la lumière intense de la présence divine, qui est difficile à supporter pour un être humain, mais sauf pour Abraham à l'époque, puisqu'il était purifié par sa circoncision. Troisième niveau, le niveau de Drash, explication homélitique. Ce niveau-là, nos sages nous expliquent que Dieu a compris le désir d'hospitalité d'Abraham, sa déception de ne voir venir personne, et donc il lui a envoyé trois anges. Que fait Abraham? Il court à leur rencontre. Il court à leur rencontre parce que ce qui est un exemple de Chesed. Voilà, bon, on va laisser provisoirement ce thème, enfin plus ou moins on va le prolonger en insistant sur le sujet des trois anges. Dans le Pshat, nous voyons que Abraham se tenait devant eux et on nous dit, Vayikar, Chema, Vehalev, Ben, etc., Vehu, Romed, Raleem, Tahataretz, Vayochelo. Qu'est-ce que veut dire tout ça? Ben, ça veut dire tout simplement que Abraham a apporté beaucoup de choses aux anges et surtout qu'il était debout, Romed, Raleem, Tahat, il était debout avec eux quoi, sous l'arbre, Tahataetz, et eux ont mangé. Bon, le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, nous le comprenons tous. Dieu apparaît à Abraham. Trois hommes apparaissent à leur tour. En fait, ces hommes, c'étaient des anges. Ces mots évoquent une scène simple, concrète, on pourrait dire bucolique. Abraham se tient debout sous un arbre, pendant que les visiteurs qu'il reçoit, eh bien, sont en train de manger. Cela évoque l'hospitalité, le respect, etc. Bon, c'est un pchat. C'est une scène de, entre guillemets, si on veut dire un mot moderne, ils sont là au camping, ils mangent sous un arbre. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus. La leçon morale, c'est l'humilité du service. Celui qui se tient debout pendant que d'autres mangent incarne le don de soi, la générosité, le rôle même du maître de maison qui sert ses invités. Cela nous enseigne la valeur de l'accueil, le respect de l'autre, le désintéressement. Et au niveau du remèze, de l'allusion, on nous dit que, le maître explique que chaque ange incarne une mission unique. L'un annonce la. Fait une annonce, on va le voir ensuite, hein. Donc chacun d'eux a une fonction. Le Michael, ça c'est au niveau du drache. Michael annonce la naissance d'Isaac. L'ange Gabriel est là parce qu'il va détruire en chemin pour détruire la ville de Sodome, Gomorre et des villes de la vallée de ce qui deviendra la mer du sel, la mer morte. Et quant à l'ange Raphaël, il était là pour guérir, soulager Abraham de sa douleur. Ces trois anges, à un autre niveau, correspondent aux trois piliers du monde. Dans la Mishnah Pirkei Avot, au tout début, il est expliqué que Shimon HaTzadik, qui était un des tout derniers membres de la Grande Assemblée, disons, c'était avant l'exil, et il expliquait que Ralshelosha Debarim Arolam Omed. Le monde repose sur trois choses. Ral HaTorah, sur la Torah. Veral HaAvoda, sur le service divin, c'est-à-dire la prière, le lien intime entre l'homme et Dieu. Veral Gemilot HaSadim, et sur les actes de générosité, la bienveillance, l'amour du prochain, on pourrait dire plus avec une coloration actuelle, la justice sociale. Il ne faut pas croire que c'est une invention d'aujourd'hui, parce que la justice sociale, il suffit de parcourir les prophètes pour voir abondamment la réclamation, l'insistance des prophètes pour cette justice sociale. La structure spirituelle du monde, en définitive, du monde autrefois comme aujourd'hui, repose sur ces trois piliers, chacun incarné dans les récits bibliques et prophétiques. Donc vous voyez que cette simple arrivée des trois anges, à un niveau, ben c'est trois visiteurs qui passent et Abraham les invite, mais à un autre niveau, ça renvoie carrément à la structure spirituelle du monde. Quant au drache, on nous explique, j'ai un petit peu anticipé en vous le disant tout à l'heure, la mission unique de chaque ange reste le niveau secret, mystique, disons. On nous dit que c'est sous un arbre que ça se passe. Eh bien là, on est carrément transporté infiniment plus loin que cette scène bucolique sous un arbre. On est en train de parler de Etz Ha-Hayim, de l'arbre de vie, qui est symbole de sagesse divine, de flux spirituel qui relie les mondes supérieurs et le monde d'ici-bas. Et regardons ce qui est écrit. Ve'hu Romed Ha-Lehem. Et lui, Abraham, se tenait debout à côté de ses visiteurs. Mais prenons la loupe. Regardons ces trois mots. Véhou, Romed, Alehem. Nous savons, nous l'avons dit la semaine dernière, qu'il y a toute une série de procédés d'interprétation de la Torah, parmi lesquels l'examen des lettres finales. Et nous constatons là que les lettres finales, Aleph, Dalet, Mem, de Véhou se termine par Aleph, Romed se termine par Dalet, Alehem se termine par Mem, eh bien, on a quoi écrit? Adam. C'est le nom Adam. En fait, l'interprétation mystique de ce verset nous renvoie à tout autre chose que ce que raconte le sens simple. Abraham se tenait debout. Bien sûr, pour accueillir des visiteurs, etc. Parce que tous les sens sont concordants. Mais il se tenait debout pour réparer la faute d'Adam. Il se tenait là pour réparer la faute originale qui est faite, comme vous le savez. Il y a eu, on en a parlé l'autre fois, du fruit défendu. Il y a eu consommation du fruit défendu. Je vous renvoie à la leçon de Vayera, hein, qui expliquait justement tout le débat, quel est le fruit défendu, etc., etc. Ici, il faut comprendre que le fait de consommer le fruit défendu, c'était pas du tout, pas seulement une infraction. C'était si on peut dire, une dégradation d'un canal de bénédiction de Dieu vers le monde. Dieu, par ses. Disons qu'il y a deux noms divins, le nom Adoshem et le nom Yud-Ké-Vav-Ké. Ces deux noms, eh bien, l'un fait 26 de total, l'autre fait 91. Et vous savez qu'il y a des guématriotes qui sont utiles pour comprendre des choses, hein? Eh bien, ici, nous avons consommation du fruit défendu, ici, je veux dire, au temps d'Adam et de Rava, mais ça signifiait en même temps dégradation d'un canal de bénédiction de haut en bas, en quelque sorte. Parce que, en fait, le but était d'Abraham de restaurer, et c'est d'ailleurs tout le travail, hein, jusqu'au Mashiach, de restaurer ces canaux de bénédiction, toutes les influences positives de ces deux noms. Abraham a demandé aux visiteurs, en fait, de se débarrasser de la poussière de leurs chaussures, de se laver les pieds, parce que à cette époque-là, la poussière était une idolâtrie, c'était une idole. Donc il a demandé de se débarrasser de leurs idoles, de leur idolâtrie en général, et de se reposer sur l'arbre. Et quand il dit, fais comme tu as dit. Alors Abraham s'est senti très heureux. Il s'était senti très proche de la réussite de ce tikkun olam, de la réparation de la faute originelle. Il a couru vers la tente de sa femme pour lui exprimer sa joie. Il lui a dit, prends vite 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la, fais-en des gâteaux. Regardons ces dernières lettres. Là encore, Vayomer, Ma'ari, fais vite, en quelque sorte, vite, Shelosh, Se'im, Kemar, fais 3 mesures de farine. Eh bien, regardons là encore les lettres finales et nous lisons les lettres du mot Mashiach. Il visait la réparation de la faute originelle de manière complète, définitive. Et on a là la guématria de Mashiach. Enfin, on a la guématria en safed-kevot, c'est-à-dire en lettres finales. Et si l'on regarde en utilisant un autre procédé, la guématria, nous avons Mashiach qui correspond à 500, non, 358. 358, c'est la guématria de Nahash, c'est-à-dire le serpent. C'est-à-dire l'agent qui a fait en sorte que Hava, puis Adam, tombe. Bon. On a donc ainsi trois étapes, si vous voulez, de la compréhension de ce sujet et de niveau. Bon. Alors, je vois qu'il reste à peine un petit quart d'heure, donc je suis un peu rapide, hein, je vais vite, mais j'essaie d'être précis et complet. Une petite remarque grammaticale. Nous avons le mot circoncision. Qui était le thème sur lequel nous parlons aussi. Eh bien, c'est le mot Mila. Mais il existe des mots dans la langue, de toutes les langues du monde en tout cas, le mot se dit aussi Mila. Ah, c'est la même chose? Non, c'est la même orthographe, certes, sauf que dans le lamed, dans l'une des 4 lettres du mot circoncision ou du mot mot, nous avons un dag. Nous avons ou nous n'avons pas un dagesh. Un dagesh, c'est un petit point dans la lettre. Eh bien, le mot a un point dans le lamed, alors que circoncision n'a pas de point dans ce lamed. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi cela? Ben parce que le mot mot provient d'une racine qui est même lamed, de lamed. Comme il y a deux lamed, eh bien, on n'en a écrit qu'un dans le mot mot, mais on a mis un point dedans pour dire attention, il y a une lettre, mais en fait, on en dit deux. Alors que dans le mot Mila, circoncision, Il y a un seul lamed parce que la racine, c'est même lamed qui donne moule, par exemple, coupé. Et il n'y a qu'une seule lettre lamed, donc pas besoin de points, pas besoin d'indiquer le redoublant. Alors permettez-moi, puisqu'on parle de points, un petit peu d'humour. C'est une personne qui souhaitait se convertir au judaïsme parce qu'il avait rencontré une jeune fille formidable et il voulait absolument se marier avec elle, seulement elle ne voulait pas parce qu'il n'était pas juif. Alors il était bien embêté, il a décidé de se convertir et pendant un an il a travaillé dur pour apprendre toutes les règles, pour apprendre absolument tout ce qu'on lui demandait d'apprendre. Mais un jour, le vase, il y a une goutte qui a fait déborder le vase parce que son rave lui a dit, pour Pessah, il faut manger 30 grammes de matzah. Alors là, il a explosé. Oh non, franchement, écoutez, moi je suis venu pour apprendre des valeurs extraordinaires. Et qu'est-ce qu'on me dit? 30 grammes. Et si c'est 29, 29 grammes et demi? Ah non, ça va pas. Quoi? Pour un demi-gramme, vous allez m'embêter comme ça? Et bon, écoutez, je suis d'accord pour manger de la matzah, pour pas manger de pain à Pessah, pour tout ça. Mais si je me trompe un peu, je ne mets pas 30 grammes. Non, c'est 30 grammes. Bon, ok. Il était très fâché contre ce détail qu'on lui réclamait et il a écrit une lettre très motivée à son rave en lui disant que, en fait, bon, il fallait pas exagérer, hein, pour un gramme ou un demi-gramme, combien de détails, il a appris tout ce qu'il fallait, mais qu'on l'embête pour des détails insignifiants comme ça. Bon. Le rave n'a pas répondu, alors qu'il répondait toujours. N'a pas répondu. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Au bout de 2 mois, il n'en tenait plus. Il a réenvoyé un mail au rave en lui disant « Je suis étonné, vous ne m'avez pas répondu. » Et le rave dit « Oh, mais j'ai reçu votre mail et j'y ai répondu. Et en lisant votre nouveau message, je me suis demandé mais pourquoi donc n'a-t-il pas reçu mon message? Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un détail. J'avais oublié le point entre Gmail et FR. Un point insignifiant, un détail, mais un détail même insignifiant, le demi-gramme qui vous manque, ça fait empêcher le message d'arriver. Et donc, chaque point compte. Avec un point placé au bon endroit, mon mail serait arrivé dans votre boîte aux lettres. Mais il s'est perdu dans les méandres de l'espace électronique parce que ben, j'ai oublié un point. L'étudiant a compris et il a bien compris que c'était 30 grammes et pas 29 grammes et demi. 29 grammes et demi. Voilà. Il reste encore 10 minutes. On peut prolonger la réflexion, si vous le voulez bien, autour toujours de ce sujet de la. De, c'est le sujet, j'en ai développé plusieurs sujets, mais. Vu le temps, je n'aurai pas le temps de les développer tous. Donc, on va rester sur ce sujet initial de la circoncision. Eh bien, quand au début, on nous dit qu'Abraham a reçu ses invités. Et il leur a dit de prendre un peu d'eau. Il a dit qu'il allait leur donner un peu d'eau. Il leur a lavé les pieds qui étaient souillés par la poussière de la route. Et il leur a dit de prendre leurs aises sous l'arbre. Il leur a proposé aussi une miche de pain. Et. En fait, qu'a-t-il fait? Il a proposé peu, mais il a fait beaucoup, puisqu'après on nous parle d'un veau, etc., etc. Voyons les choses d'un autre côté. Non plus l'invité, non plus l'hôte qui accueille ses invités, mais les invités. Comment se sont-ils comportés? C'est une leçon aussi pour tous ceux qui sont invités. Quand on leur a proposé de la nourriture, ils n'ont pas refusé, alors qu'ils auraient pu, c'était des anges. Des anges ne mangent pas. Ils ne mangent pas du tout. Ils n'ont absolument pas besoin de nourriture. Ils auraient pu lui dire non. Non, ils ont accepté. Pour ne pas choquer leur hôte, ils ont accepté ce que l'hôte leur proposait. Ils n'ont pas, de plus, demandé autre chose que ce que Abraham proposait. Lorsque Abraham leur a proposé d'aller manger et de se reposer, de prendre leurs aises sous un arbre, eh bien, qu'ont-ils fait? Ils ont dit oui, oh non, non, nous on préfère le canapé qui est sur ta véranda, on serait mieux à l'ombre dans ta tente. Non, ils ont dit oui, d'accord. Et lorsqu'ils ont reçu de la viande, ils ont dit oh non, on voulait du poisson. Donc, l'hôte a d'une. On apprend dans le chat de ce passage que l'invité aussi a une manière de bien se comporter. C'est pas simplement l'autre qui doit bien recevoir son invité. Et de plus, lorsque Abraham a prononcé une sorte de Dvar Halakha, en leur expliquant que les remerciements, ce n'était pas à lui qu'il devait s'adresser, mais à Hachem, qui lui avait procuré à lui, Abraham, la nourriture, etc., eh bien, ils ont été attentifs. Ils ne lui ont pas demandé de changer de dracha, d'aller prendre un autre sujet, parce que celui-ci ne les dérangeait ou ne les intéressait pas du tout. Non. Ils ont écouté poliment, soigneusement, et on voit là, en quelque sorte, la bonne réponse, la bonne conduite du derer eretz, comme on dit, la conduite qui permet d'avoir de l'harmonie dans la société. Et de surcroît, ils n'ont pas oublié de lui demander des nouvelles de sa femme. Parce que ça aussi, c'est une manière de bien se comporter, de prendre des nouvelles, soit de la femme d'un homme, soit au contraire, du mari d'une femme. Voilà, on peut peut-être encore, il nous reste quelques minutes, on peut encore peut-être réfléchir sur quelque chose, c'est que Abraham s'est comporté avec zèle, avec empressement. Eh bien, ce genre de choses peut-être nous apporte une leçon, c'est que il ne faut pas faire perdre du temps à ses invités. Par exemple, si quelqu'un organise un office dans une synagogue, ben, il a le devoir d'être à l'heure. Il ne va pas dire aux gens, j'ai dit oui, j'ai dit 6 heures, mais comme les gens ne sont pas venus encore, ils ne sont pas au complet, on va attendre, on va attendre, on va attendre jusqu'à ce qu'ils viennent. Non, on commence à l'heure. C'est une manière de respect de ceux qui viennent. De même, s'il y a s'il y a table, par exemple, quelqu'un doit parler, il ne doit pas parler pendant 2 heures. Évidemment, il y a toute une série de choses que l'invité doit bien intérioriser, pardon. Voilà quelques éléments sur cette paracha. Et je pense que l'on a fait le tour autour de cette thématique. On pourrait continuer sur d'autres thèmes, mais le temps va nous monter. On va nous couper brutalement, hein. Il y a le thème du rire de Sarah qui mériterait d'être exploré. Bon, ce que je vais pouvoir faire, si vous le voulez bien, puisqu'on arrive à peu près au bout du temps qui nous est imparti, c'est pour ceux qui le souhaitent, vous proposer à 19 h un deuxième cours qui, lui, nous ferait explorer la Haftara de la semaine. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et on va maintenant, je vais rétablir les micros de chacun.